Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle méditation. Et comme je commençais vraiment à être impatient de vous voir, j'ai préféré faire une vidéo plutôt qu'un simple enregistrement audio. Bon, je l'avoue, c'est un peu égoïste de ma part, mais pour moi, cela permettra de me sentir un peu plus proche de vous. En attendant, j'espère de vous revoir un jour en chair et en os. Pour ce cinquième dimanche après Pâques et pour notre dernier dimanche de confinement, lisons le texte choisi par les églises chrétiennes en première lecture de leur liturgie. C'est un texte très connu des Actes. Il s'agit de la nomination des diacres dans la communauté de Jérusalem, c'est-à-dire la première église. J'ai retenu ce texte pour deux raisons. D'abord parce que c'est un texte de circonstance. Après la résurrection du Christ, l'Église se développe et s'organise. Ensuite, parce que à Bergerac, nous souhaitons que notre Église devienne saine et missionnaire. Quoi de mieux alors que de retravailler ce texte qui est à l'origine, je vous le rappelle, de l'organisation de quasiment toutes les Églises chrétiennes. Lisons donc Actes chapitre 5, verset 41. À Actes chapitre 6, verset 10. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands signes dans le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens, et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Parole du Seigneur. Le texte que nous venons de lire marque une étape importante dans la construction de l'Église naissante, car dans son développement, l'Église fait face à un problème majeur et s'organise pour y remédier. Comme je l'ai déjà dit, ce texte deviendra un modèle d'organisation pour la plupart des églises chrétiennes encore aujourd'hui. Ainsi, l'équipe dirigeante de ces églises se compose d'apôtres et de diacres. Les apôtres, à la suite des 12, sont maintenant les évêques, les prêtres, les pasteurs ou les anciens. Les diacres, à la suite des 7, sont ce qu'on appelle les conseillers, les diacres et tous ceux qui prennent une responsabilité dans l'Église. Autant la fonction d'apôtre est bien identifiée dans les communautés, autant la fonction de diacre l'est moins ou identifiée que partiellement. Pour caricaturer un peu et avec le temps, le partage des responsabilités entre la fonction d'apôtre et celle de diacre s'est fait de la manière suivante. La fonction d'apôtre se charge de gérer la partie spirituelle et proclamation de la parole. Et la fonction de diacre se charge de gérer tous les aspects pratiques de la bonne marche de la communauté. Je veux parler de la présidence, trésorerie, coordination, musique, etc. Ce partage est venu de la compréhension de ce récit d'Acte 6. En effet, le problème qui se pose à la communauté de Jérusalem est un problème relatif au, vous l'avez entendu, service des tables. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Quand on lit le verset 2, les apôtres opposent parole de Dieu et service des tables. Depuis des générations, nous interprétons que, en disant cela, les 12 opposent le spirituel, c'est-à-dire le service de la parole de Dieu, au matériel, c'est-à-dire le service des tables. Voilà d'où vient ce partage entre spirituel et matériel dans les fonctions d'apôtre et de diacre. Cela vient de la différence assez évidente, il faut le reconnaître, qui est faite entre service de la parole de Dieu et service des tables. En fait, cette interprétation pose un petit problème. Car à bien regarder le texte, il est difficile de comprendre service des tables uniquement comme la simple organisation d'un repas pour que tout le monde puisse avoir à manger et que personne ne soit négligé. Regardons quelques éléments du récit qui doivent nous forcer à élargir notre manière de comprendre service des tables. D'abord le verset 8. Écoutez. Plein de grâce et de puissance, Étienne faisait des prodiges et de grands signes dans le peuple. Puis les versets 9 et 10. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Par ces trois versets, sans conteste, Étienne réalise un service de la parole, tel que nous le comprenons aujourd'hui. Il fait des prodiges et des grands signes, et il se défend magistralement auprès de ses accusateurs. Dans ce qui est décrit de lui dans ces trois versets, rien ne le différencie de ce qu'ont déjà fait les apôtres dans le début des Actes. Et pourtant, ce qu'Étienne est en train de faire se nomme, dans le texte, service des tables. Enfin, le verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, ça veut dire les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service qui se faisait chaque jour. Vous avez bien entendu, les veuves étaient négligées. Qu'est-ce que le service des tables a à voir avec les veuves? Oui, il y a un problème entre les Grecs et les Hébreux. Mais pourquoi seules des veuves grecques sont négligées et pas les autres grecs de la communauté? Pourquoi prive-t-on que les veuves de nourriture et pas les autres? Par ces deux observations, on doit admettre que le service des tables n'est pas qu'un problème pratique de repas, n'ayant rien à voir avec Dieu et la parole de Dieu. Étienne et les veuves nous le montrent. Si donc ce n'est pas un problème pratique d'organisation de repas, qu'est-ce donc que le service des tables pour le texte? Comprendre cela nous permettra de mieux comprendre ce qu'est un diacre. En fait, le problème qui se pose dans la communauté de Jérusalem est un problème d'origine. Dans cette communauté de gens d'origine grecque et hébraïque, les veuves d'origine grecque sont négligées dans le service quotidien et j'ajouterai volontiers dans le service quotidien de la parole. Les veuves d'origine grecque sont négligées parce que ce qui est dit, la manière dont c'est dit, n'est pas bien reçu, bien compris par ces veuves-là. Clairement, dans cette communauté, il y a un problème de langage. Du fait des origines différentes, ce qui est dit dans l'enseignement, dans les cultes, ne nourrit pas pareillement, car ce qui est dit dans un langage pour des gens d'origine hébraïque, et pas dans un langage pour des gens d'origine grecque. On aurait pu penser que ce problème de langage ne soit en réalité qu'un problème de langue, donc de traduction. En fait, non. Ce n'est pas un problème de mauvaise traduction d'hébreu en grec, comme on pourrait le penser. C'est plus profond que cela, et pour s'en convaincre, revenons au texte et regardons ce que cette nomination a changé dans la communauté. Et pour cela, comparons les versets 1 et 7 qui encadrent le récit de la nomination des diacres. Écoutez verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Et verset 7. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà le changement. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Cette nomination des sept diacres permet à des gens d'une nouvelle origine de s'adjoindre à la communauté. Ce sont des sacrificateurs. Et pourtant, les sacrificateurs sont de langue hébraïque. Ils travaillent au temple. Ces sacrificateurs s'adjoignent à la communauté non pas parce qu'ils comprennent l'hébreu, mais parce que dans cette communauté, grâce aux diacres, ils ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langage de sacrificateur. On voit bien là que le problème de langage que connaît la communauté n'est pas un problème de langue et de traduction. Rappelez-vous, toute catégorie sociale, tout groupe, toute communauté, toute famille a son propre langage. On le voit bien dans nos vies. Que de difficultés pour nous, parents, de nous faire comprendre par nos enfants, et inversement. Oui, entre générations, nous n'avons pas le même langage. Et pourtant, on parle la même langue. Le propre de la Pentecôte est que les apôtres ont été capables, par l'Esprit, de parler des merveilles de Dieu dans le langage de tous les gens venus à Jérusalem, quelle qu'ait été leur origine. Ce que les apôtres ont fait à la Pentecôte, ils le délèguent aux sept diacres. Le service des tables est donc de dire la parole de Dieu dans le langage des membres de la communauté. Et je le répète, ce n'est pas un problème de langue. Il faut bien comprendre que le problème entre les veuves grecques et les veuves des Hébreux n'est pas un problème de langue, mais de langage. Pour que la parole nourrisse, il faut qu'elle soit exprimée dans le langage de celui qui l'écoute. Voilà ce que les 12 appellent le service des tables. On peut maintenant se demander, et pour finir, pourquoi le texte se focalise sur les veuves. Car tout se déclenche par une différence de traitement entre des veuves. Y en avait-il tellement dans cette communauté pour qu'elles mettent en place une telle organisation? En fait, dans ce texte, il faut prendre la veuve comme une image. Comme vous le savez, la veuve est une femme qui a perdu son mari, celui qu'elle aimait. La veuve est l'image même de celle qui a perdu son vis-à-vis, l'image même de celle qui est désormais en manque de celui qu'elle a aimé. Par extension, la veuve représente tous ces gens en désir, en manque du Christ. Le Christ n'est-il pas l'époux? Et l'Église, c'est-à-dire la communauté des croyants, son épouse? À l'ascension, le Christ a quitté le monde des hommes. Depuis ce jour, comme croyant, nous sommes en manque de lui, en désir de son retour, comme la veuve est en manque de son mari et en désir de le revoir un jour à la résurrection. En fait, nous sommes tous des veuves du Christ. Le problème qui se pose dans l'Église de Jérusalem concerne donc tous ceux qui ont faim du Christ, c'est-à-dire tout le monde. Et quand on a faim du Christ, la communauté n'a pas le droit de négliger la moitié de l'assemblée pour des questions d'origine et de langage. Le problème qui se passe entre les veuves n'a donc rien d'anecdotique. C'est au contraire si important que les 12 mettent en place les 7, une structure divine et parfaite. Recevoir la parole, c'est recevoir le Christ. Encore faut-il que le langage utilisé soit ajusté au langage de chacun. Voilà le rôle des diacres. Voilà ce qu'est le service des tables pour les 12. Ainsi, ceux qui sont en désir du Christ seront nourris par la parole sans distinction de langage. Mes chers frères et sœurs, que dans notre communauté de Bergerac, nous puissions fidèlement, jour après jour, servir aux tables, afin que chacun puisse se rassasier du Christ par ce service-là. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu prends soin de ton Église. Tu l'as montré en instituant les diacres dans la communauté de Jérusalem. Tu nous as montré que nous ne pouvions pas délaisser celui qui a faim de toi. Seigneur, quoi dire à celui qui a faim? Comment le dire? Nous ne nous connaissons déjà pas nous-mêmes. Comment dire alors ta parole aux autres que nous connaissons encore moins? Seigneur, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Viens en nous par ton esprit, afin que nous soyons capables de dire ta parole dans le langage de celui qui te désire. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons cru pouvoir faire ça sans toi. Mais pardonne-nous aussi toutes les fois où nous ne l'avons pas fait par manque de foi. Seigneur, viens au secours de notre égoïsme. Apprends-nous à aimer, afin que ton Église soit digne de toi. Merci de nous envoyer ton esprit pour nous guider et nous inspirer, jour après jour, dans la gloire de ton nom. Amen.